Chapitre 63. Le trajet au milieu des arbres ratatinés fut plus long que Richard l'aurait cru. La frondaison occultant toujours la lumière du soleil, la végétation plutôt rare était en piteux état. Au pied des arbres, une mousse noirâtre formait de gros amas répugnants. Les racines de certains arbres, se souvint Richard, étaient toxiques pour les autres plantes, une manière radicale de préserver son espace vital. Si seulement Zed avait été là. Lui, il aurait sûrement su quelque chose sur cet endroit et l'étrange peuple de la paille, et sinon il aurait improvisé pour remonter le moral de ses troupes. Sans le vieil homme, la vie perdait beaucoup de son sel. Même s'il n'était plus de ce monde, Zed occupait sans cesse les pensées de son petit-fils. Par le passé, lorsqu'ils étaient séparés, Richard avait toujours été réconforté par l'idée que le vieux sorcier était quelque part bien vivant et actif. À présent, c'était terminé. Sans son mentor, son conseiller le plus fiable et son meilleur ami, Richard se sentait seul et perdu dans un monde trop vaste pour lui. Comment Zed pouvait-il ne pas être quelque part, en pleine forme, avec son appétit boulimique et son goût prononcé pour les jolies femmes? Depuis sa naissance, Richard avait un point d'ancrage dans la vie. Et ça aussi, c'était fini. Il aurait tout donné pour qu'on lui rende son grand-père. Conscient que c'était impossible, il lui restait une consolation. L'idée de tordre un jour le cou au responsable de son deuil. La colonne arriva enfin dans une clairière où des bâtiments se dressaient les uns contre les autres. Des structures carrées, toutes d'un seul niveau. Apparemment, elles étaient composées du mélange de boue et de paille qui enduisait le corps des cornues. Même sans frondaison, le ciel se révéla si plombé que la luminosité s'améliora à peine. De toute façon, tout étant uniformément noir dans le village, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ce qui ressemblait à de la boue, s'avisa Richard, devait être un matériau plus résistant, sinon les pluies constantes dans les terres noires auraient vite dilué le maquillage des cornues et fait fondre leurs habitations. De plus, la boue aurait séché sur leur corps, se craquelant et entravant leurs mouvements. Aux fenêtres des maisons, de simples ouvertures carrées, Richard vit des gens qui ne portaient pas de crâne sur la tête. Cela ressemblait à n'importe qui. Derrière certains bâtiments, des pots de daim séchaient sur des cadres de bois. Richard remarqua aussi des fumoirs et plus loin des cuves à eau et d'autres équipements communaux. Lorsque des curieux sortirent des maisons, le sorcier fut surpris de découvrir qu'ils étaient tous vêtus quasiment normalement. Des habits aux couleurs ternes, certes, mais qui se seraient fondus dans le décor ou au sein de toutes les cités du monde. Alors que les adultes sortaient, les enfants prirent leur place aux fenêtres. Trop apeurés pour aller dehors, ils ne parvenaient pas à résister à la curiosité. Bref, des gamins comme les autres. Les femmes et les hommes de tous âges semblaient méfiants mais pas ouvertement hostiles. Et d'après ce que Richard savait des terres noires, on ne pouvait pas leur reprocher de se montrer prudents. Au nombre de maisons, le sorcier estima qu'il devait y avoir une centaine d'habitants dans le village. Le seul cornu qui eût parlé jusque-là approcha de ses concitoyens et engagea la conversation avec eux. Les palabres s'éternisèrent, ponctuées par de grands gestes. Puis l'homme tapa sur le sol avec son bâton et le silence se fit instantanément. Les uns après les autres, tous les curieux rentrèrent chez eux. N'ayant aucune idée de ce qui se passait, Richard et ses compagnons durent se contenter d'attendre. Le cornu au bâton approcha et leur ordonna de le suivre. Les voyageurs obéirent, s'efforçant de paraître le moins menaçant possible. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent sur une place au centre du village. Lorsqu'ils y furent tous entrés, les cornues qu'ils avaient vues au début vinrent de nouveau les encercler. Richard jeta un coup d'œil à Samantha. Quelque temps plus tôt, elle lui avait confié son désir de voyager et de découvrir le monde. Stroiza, avait-elle dit, était un endroit mortellement ennuyeux et elle avait soif d'aventure. « Alors, tu as ton compte en d'aventure ?» lui demanda le sorcier. La jeune magicienne hocha la tête et lui rendit son sourire, mais sa réaction semblait à rien forcer.
« Vous pensez qu'ils nous laisseront passer, Seigneur Ral ?»«
Oui, » répondit Nietzsche à la place de Richard. « Sinon, ils auront affaire à la maîtresse de la mort. » Samantha se serra un peu plus contre sa mère. Richard n'estima pas utile de rappeler à Nietzsche d'y aller tout doux et de ne surtout pas s'emballer. Expérimentée, la magicienne ne déclencherait pas les hostilités, mais si ça tournait mal, elle y mettrait sans doute un terme à sa façon. Richard capta des échos de voix venant d'une maison assez éloignée, une conversation musclée, semblait-il. Puis, le silence revint. Peu après, une petite foule sortit du bâtiment. Ces gens marchaient en rang serré, s'entraînant les uns les autres, peut-être pour oublier leur peur. En leur sein marchait une femme aux cheveux noirs, tirée en queue de cheval, qui ressemblait à tous les autres, sinon que son chemisier était teint au henné noir. Un bandeau, également teint au henné noir mais en plus brillant, recouvrait ses yeux. À la voir tendre les mains devant elle pour détecter d'éventuels obstacles, il ne fallait pas être grand clerc pour deviner qu'elle n'aimait pas porter ce bandeau. Venait-elle volontairement? Se demanda Richard. Considérant qu'elle n'était pas entravée, on pouvait supposer que oui, mais... Autour d'elle, plusieurs personnes la guidaient, la rassurant et l'encourageant tout à la fois. Un très jeune homme lui prit même une main et la posa sur son épaule afin de lui montrer le chemin. D'un côté, la femme semblait désorientée et nerveuse. D'un autre, si on en jugeait par son menton pointé, elle paraissait fière de porter le bandeau, comme si elle était soudain devenue une sorte de phare pour son peuple. En même temps, elle donnait l'impression de ne pas trop savoir ce qui l'attendait. La foule s'arrêta à quelques pas de Richard et de ses compagnons. À l'évidence, la cérémonie en cours sortait de l'ordinaire, mais dans cette région des Terres Noires, on ne devait pas recevoir des visiteurs tous les jours. Cela dit, s'il y avait une oracle, on pouvait supposer que des gens devaient parfois venir de très loin pour la consulter. Le cornu au bâton se tourna vers Richard.
Par l'intermédiaire de la femme aux yeux bandés, notre oracle va choisir celui d'entre vous qui lui parlera.
La femme tendit une main. L'homme la saisit, la posa sur son bâton et la ferma dessus, puis il s'écarta. La femme avança, utilisant le bâton comme une canne d'aveugle. Quand elle fut à deux pas des intrus, elle s'arrêta et huma l'air comme si elle essayait de deviner qui elle avait en face d'elle. N'y parvenant pas, elle se remit à marcher, mais le long de la rangée de visiteurs cette fois. Elle alla jusqu'au dernier soldat, puis revint sur ses pas, le menton toujours pointé et tous ses sens autres que la vue aux aguets. Puis, elle recula, s'arrêta et posa les deux mains sur le bâton. Conscient que le temps pressait, Richard posa la main sur le pommeau de son épée. Si ce rituel ne se terminait pas très vite, il se chargerait d'y mettre un terme. Si ces gens ne se décidaient pas à se montrer coopératifs, il allait falloir passer en force et tant pis pour les conséquences. La femme tendit le bâton et tapa très légèrement sur chaque épaule de Callan.
« Toi, » dit-elle, « c'est toi que l'oracle verra, et personne d'autre. »
Richard allait dire que c'était hors de question, mais sa femme avança et ne lui laissa pas le temps de parler.
« Merci. Conduis-moi très vite devant l'oracle, je t'en prie. Nous n'avons pas tant à perdre. »
Richard fit un pas en avant, mais deux cornues vinrent lui barrer le chemin.
« Tu attendras ici pendant qu'elle parlera avec l'oracle. »
Callan fit un petit signe apaisant à son mari.
« Tout ira bien. Attends ici. »
« Je n'aime pas que... »
« Richard, je suis la mère inquisitrice.
J'ai passé une bonne partie de ma vie à faire des choses de ce genre. Laisse-moi régler cette affaire afin que nous puissions repartir. C'est tout ce qui compte. »
Jusque-là, chaque fois que Callan avait dû jouer les diplomates, elle disposait de son pouvoir pour se défendre. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Richard se résigna pourtant. La négociation serait le moyen le plus rapide d'obtenir le droit de continuer leur chemin, avec bien moins de risques qu'un combat. Si tout se passait bien, cependant.
« D'accord. Nous allons t'attendre ici. »«
En cas de besoin, appelle, » dit Nietzsche. « Je t'entendrai. »
Callan hocha la tête, puis emboîta le pas à la femme aux yeux bandés. Sans savoir exactement ce qui se passait, Richard avait une certitude. Ça ne lui disait rien de bon.